c'est une complexification considérable de la circuiterie neuronale.
Ce n'est pas très clair. Je vais mettre une fin à toute cette confusion.
Sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'organisateur du salon évangélique ?
Je fais partie de l'équipe d'organisation.
On cherche le stand de Au Commencement.
D'accord, il est un peu plus loin, je vous accompagne.
Alors, toute la littérature là et les DVD sont faits par les scientifiques, mais qui croient qu'il y a un créateur. Par exemple, là, on peut expliquer l'origine de l'univers sans Big Bang. Ça, c'est sur les roches et les fossiles.
Alors justement, les fossiles, par exemple, comment est-ce que...
On les explique. Pour qu'un fossile se forme, il faut que l'animal ou un arbre ou quelque chose soit obligatoirement enseveli subitement. Nous sommes catastrophistes, c'est-à-dire que nous croyons que la Terre a subi des catastrophes, plus ou moins grandes, mais une catastrophe majeure qui a affecté toute la géographie de la planète, qui s'appelle le déluge global. C'est-à-dire qu'à une époque, la Terre entière a été recouverte d'eau, toute la Terre. Et ça a duré un an. Et donc, tous les animaux terrestres qui respirent sont morts. Sauf un couple de chaque qui ont été sauvés dans ce qu'on appelle l'Arche de Noé, dont voici une maquette. Alors, je vous la présente brièvement. Là, vous voyez, une girafe ou un éléphant ou un dinosaure peuvent rentrer sans baisser la tête. Donc, 3 étages et des boxes. Et donc, tous les animaux qu'on rencontre aujourd'hui, et les humains, c'est-à-dire nous tous, là, de n'importe quel peuple, nous sommes les descendants, tous, les animaux et humains, de ceux qui étaient dans l'Arche de Noé. Voilà. Alors, cet événement, cette catastrophe majeure, s'est passé il y a 4500 ans, environ. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve de ça? Bon, alors, plusieurs. Premièrement, des écrits babyloniens, égyptiens et des traditions orales. Ensuite, on a toutes les couches sédimentaires qu'on trouve dans le monde. Et dans le calcaire, on trouve des animaux transformés en fossiles, c'est-à-dire en pierre, comme ceci. Il y en a 2 ou 3 là-bas. Et je suis paléontologue amateur, mais je soutiens tous les scientifiques. Je les encourage, je les soutiens, et de ne pas avoir peur du lobby évolutionniste qui tient à tout prix à imposer son point de vue à la population.
Voilà, c'était lundi matin au salon évangélique de Logne en Seine-et-Marne. Lucie Sarfati donc a rencontré pour La Tête au Carré les membres de l'association créationniste Au Commencement, et on entendait donc à l'instant Pierre Danis nous expliquer les origines des espèces. Le dossier, donc, vous l'avez compris, est consacré au mouvement créationniste en France avec mon invité Olivier Brosseau, en France et en Europe. Vous êtes docteur en biologie, donc vous publiez Les créationnismes, une menace pour la société française avec Cyril Baudouin. Est-ce que je pourrais avoir une première réaction à ce que vous venez d'entendre, Olivier Brosseau ?
Oui, bien sûr. Alors, j'avoue que c'est une entrée en matière, on peut le dire, assez radicale.
N'est-ce pas ?
Puisque là, on a eu typiquement un discours de type créationniste scientifique, c'est-à-dire la tentative de démontrer l'exactitude scientifique et historique du récit biblique. Alors, si je devais réagir sur tous les points, ça va être difficile, mais si ce n'est sur le point de l'Arche de Noé, il a bien insisté... Monsieur Danis, sur le fait qu'un couple de chaque espèce a été sauvé et que tous les animaux actuels sont issus donc de ces couples qui ont été mis dans l'Arche de Noé.
Il y a 4500 ans,
il y a 4500
c'est daté très précisément.
Hein. Oui. Alors, je suis assez perturbé d'entendre ça parce que les auditeurs le savent peut-être pas encore, mais au 1er janvier 2010, c'est l'année internationale de la biodiversité qui commence. Et la biodiversité, si on n'en prend qu'une petite partie de la définition, c'est les organismes qui peuplent en effet la planète. Et il y a 1,8 million d'espèces qui sont décrites. Et les scientifiques estiment, selon les estimations, qu'il y en a entre 10 et 100 millions qui peuplent la planète. Donc, je laisse à chacun la liberté d'imaginer quelle serait la taille de l'Arche de Noé pour pouvoir abriter 1,8 million de couples si on se contente des espèces qui sont connues à l'heure actuelle. Mmh. Et si on va jusqu'aux espèces, la totalité des espèces à la surface de la planète, on atteint justement... Enfin bon, voilà, c'est pour dire qu'il y a quand même des choses qui paraissent complètement... incohérente et absurde dans ses propos.
Alors, vous parliez de créationnisme radical en entendant ce témoignage. On va en entendre d'autres d'ailleurs au cours de l'émission avec un scientifique qui s'appelle André Hegen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs tendances, plusieurs mouvances de créationnisme. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, hein, puisque vous l'employez au pluriel.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs tendances. Alors, on pourrait en parler longtemps. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis parce que c'est vraiment le modèle qui permet de comprendre en quoi il faut parler des créationnistes, du créationnisme au pluriel. Il faut parler des créationnismes parce qu'il s'agit de mouvements qui sont des évolutions tactiques en fonction des avancées de la science, en fonction de défaites juridiques d'un certain nombre de créationnistes et des changements aussi au niveau de la société.
À quel moment apparaît le mot ?
Le mot, il apparaît à la fin du 19e siècle. Il désigne en fait des mouvements anti-évolutionnistes qui sont apparus dans des églises évangéliques protestantes.
Oui.
Et ce, en réaction à la diffusion de la théorie darwinienne de l'évolution.
Donc plus elle était acceptée finalement par les scientifiques et plus on voyait ces mouvements anti-évolutionnistes se développer parallèlement ?
Oui, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans la société. Et c'est vrai qu'il y a une crainte grandissante et des choses qui font peur à un certain nombre de personnes, dont un certain nombre de mouvements évangéliques. Et c'est en réaction en fait, à ces changements qui sont assez abrupts pendant toute cette période-là qu'un certain nombre de points qui sont associés au modernisme vont être combattus. Et la théorie darwinienne de l'évolution en fait partie. Et donc, en tant que symbole d'une certaine modernité, il entame ce qui va être la première croisade créationniste dans les années 1920, basé sur un certain nombre d'écrits, les fondamentaux
voilà, donc
des évangéliques.
Voilà, c'est le récit de la création hein, qui est pris donc comme référence hein, de ces mouvements créationnistes pour expliquer l'origine du monde. Donc c'est très clairement le texte de la Genèse. Hein.
Là oui, on est dans une vision totalement littérale. Donc on interprète et on lit le texte tel qu'il est et on considère que c'est un texte qui a valeur scientifique et historique et donc il faut le prendre au pied de la lettre.
Ah ben justement, on va entendre André Hegen qui est scientifique donc à l'INRA, alors qui est en disponibilité, c'est-à-dire que pour l'instant il ne travaille plus à l'INRA, il anime régulièrement des conférences créationnistes. Lucie Sarfati l'a également rencontré lundi matin.
André Hegen, comment est-ce qu'on vous présente ?
Je suis officiellement directeur de recherche en génétique animale, actuellement en disponibilité.
Vous dites « je suis créationniste ».
Oui, tout à fait. Ah oui, moi je n'ai pas de problème à dire ça, au contraire. Je suis créationniste, je crois en la Bible, je crois en Dieu. Et la Bible ne me pose aucun problème avec ma foi et avec ce que je peux lire dans le monde scientifique.
Pour vous, par exemple, le seul livre 100% fiable, c'est la Bible.
C'est vrai que la Bible a traversé les siècles, pas une seule lettre de son message n'a été modifiée depuis son origine. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un ouvrage scientifique. La durée moyenne d'un ouvrage scientifique, Rémi Chauvin l'estimait à environ une quinzaine d'années. Après quoi, c'est vrai, il n'y a plus grand monde qui s'y intéresse parce que les théories sur la base de nouvelles découvertes ont été modifiées, corrigées, amendées, complètement abandonnées, reprises par des nouvelles théories. Donc, une théorie scientifique, un jour elle est vraie, 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, sur la base de nouvelles découvertes, elle va être modifiée. On n'a qu'à regarder, et là, sur le stand, on présente un DVD sur l'histoire de l'astronomie. L'histoire de l'astronomie, il y a des choses qu'on a cru être vraies à un moment donné, qui se sont révélées complètement fausses.
Alors, Olivier Brosseau, autre réaction hein, sur justement le choix, l'appui sur les textes de la Bible, comparé précisément aux théories scientifiques qui, dit-il, évoluent tout le temps, ce qui fait qu'on ne peut pas s'y fier, les ouvrages ne font pas référence, et alors que la Bible, elle, permet justement de s'appuyer sur des textes sûrs.
Oui. Oui, en effet, apparemment, les mots de la Bible ont toujours été les mêmes. Alors, j'ai envie de lui demander à quelle traduction il se réfère, puisqu'il y en a quand même un certain nombre. Et déjà, c'est un texte qui a été écrit par des hommes, et ensuite qui a été repris, traduit, réécrit. Donc, c'est un peu troublant, ce type de considération. Pour ce qui concerne les textes scientifiques, en effet, je pense que le discours qu'il a peut plaire à un certain nombre de personnes parce que c'est rassurant de penser qu'on est en adéquation avec un texte qui est
fixe, hein,
dit,
qui n'évolue
dit figé,
pas.
Fixe, donc qui définit un certain nombre de choses auxquelles on va adhérer, alors que la science, en effet, est perpétuellement en mouvement et quelque chose d'extrêmement dynamique. Alors là, on commence à rentrer dans la distinction entre ce créationnisme littéraliste qui intègre la science, hein, parce que André Hegen est scientifique, donc c'est pour ça qu'on parle de créationnisme scientifique.
Alors beaucoup d'auditeurs s'en étonnent d'ailleurs, c'est un terme qui choque beaucoup, on a reçu des messages depuis hier déjà. Alors c'est le cas de Jean-Marc, je vous le cite, un scientifique créationniste, je ne savais pas, dit-il, que ces deux mots pouvaient être associés en français.
Ils peuvent l'être et on va en parler certainement après. On peut associer aussi les deux mots évolutionnisme et créationnisme parce que on peut considérer une des erreurs ou une des problèmes de la diffusion dans les médias en particulier, c'est souvent une opposition présentée entre évolutionnisme et créationnisme. Or, si opposition il y a, ce n'est pas par rapport à l'évolutionnisme en tant que tel, puisqu'on peut être évolutionniste et créationniste, c'est-à-dire considérer qu'il y a eu une évolution des organismes vivants, mais refuser les mécanismes qui ont été proposés par Charles Darwin et tenter à tout prix de réintroduire une transcendance dans l'explication de cette évolution, donc pour mettre une évolution guidée.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de subtilité. Alors effectivement, avec cet exemple que vous jugez comme caricatural avec André Hegen et son association, vous citez dans votre livre un certain nombre de mouvements qui sont beaucoup plus ambigus finalement.
Oui, il y a... Mais c'est justement toute l'histoire, là, pour revenir sur un petit peu ces croisades, parce que je pense que c'est intéressant. Donc 1920, il y a la première croisade avec le fameux procès du singe à Dayton qui va défrayer la chronique, qui est considéré comme un des procès les plus importants de l'histoire des États-Unis et qui va opposer en effet les partisans d'un créationnisme littéraliste à des gens qui s'opposent à une loi qui interdit l'enseignement de l'évolution dans les écoles. Alors, si on passe rapidement sur cette première croisade, ensuite la justice va trancher en défaveur justement des créationnistes littéralistes en disant qu'il s'agit bien de religion et qu'il y a un premier amendement de la Constitution américaine qui stipule qu'il y a séparation entre les églises et l'État et que donc un enseignement religieux n'a rien à faire dans un cours de science. Et ce qui va conduire à un deuxième élan créationniste avec justement le développement de la science de la création, ce que j'appelais créationnisme scientifique, on peut l'appeler aussi science de la création, des choses auxquelles en effet André Hegen adhère totalement. Il a d'ailleurs beaucoup de contacts, on le voit au travers de publications, avec des instituts qui supportent encore aujourd'hui le créationnisme scientifique, cette science de la création aux États-Unis, et je pense en particulier à l'Institut pour la recherche sur la création. Et aujourd'hui, il y a eu une deuxième croisade dans les années 80. On y reviendra peut-être un petit peu plus longuement après.
Il y a l'arrivée de Reagan au pouvoir.
C'est en lien, en effet, avec l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, qui a apporté un soutien aux positions de ceux qui l'ont aidé à se faire élire. C'est la majorité morale. C'est donc un certain nombre de mouvements évangéliques qui vont le porter. Et lui-même va apporter un soutien en disant qu'il est d'avis d'un enseignement parallèle de la théorie darwinienne de l'évolution et de la science de la création. On comprend bien qu'il y a déjà une évolution de tactique. Pourquoi ? Parce que la Cour suprême a déjà tranché en disant qu'il n'est pas question d'interdire l'enseignement de la théorie darwinienne de l'évolution. Et donc maintenant, il s'agit de faire passer le créationnisme comme étant une science. C'est pour ça qu'il parle de science de la création, pour tenter de l'imposer dans les salles de classe.
Félix est à Paris. Il nous dit ceci. Est-ce que les scientifiques créationnistes prouvent ce qu'ils proclament ? Alors, on l'entendait dans les extraits il y a un instant. Ils ont des preuves, disent-ils, effectivement, par les écrits en particulier.
Alors oui, ils peuvent tirer des phrases qui, je sais pas, pour en termes d'argument de la Bible. En général, ça repose sur les travaux de quelques individus qui sont pas forcément des chercheurs professionnels, mais qui peuvent avoir proposé des choses très intéressantes. Je pense en particulier, par exemple, sur pour réagir à ce que disait Monsieur Danis tout à l'heure sur les couches sédimentaires. Il y a un sédimentologue amateur qui s'appelle Guy Berthaud, qui est depuis très longtemps mis en avant par les créationnistes partisans de la science de la création, parce qu'il a publié à l'Académie des sciences, dans les années 80, deux notes qui ont défrayé la chronique à l'époque, qui sont des notes qui sont relativement anodines, peu importantes d'un point de vue scientifique, mais dans la mesure où elles peuvent supporter l'idée d'un déluge avec donc un phénomène extrêmement brutal qui aurait en particulier été à l'origine de tous les changements
qu'on
observe à la surface de la Terre, c'est des choses qui sont valorisées en disant, regardez, l'Académie des sciences a publié ces notes, ce qui prouve bien que c'est de la science et que c'est une théorie scientifique qu'il faut prendre en considération.
Alors, on va prendre l'exemple des dinosaures, qui est assez intéressant. Les scientifiques s'accordent à dire que les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre il y a 65 millions d'années. Bon, ils ne sont pas tous d'accord pour dire comment ils ont disparu. Bon, ça se discute encore. Mais sur la date, en tout cas, c'est accepté par tout le monde. C'était il y a 65 millions d'années. Lucie Sarfati a donc posé la question à André Hegen.
Pour la théorie de l'évolution, les dinosaures se seraient éteints, en gros, il y a 65 millions d'années. Et donc, depuis 65 millions d'années, il n'y en aurait plus. Là où je trouve assez croustillant, c'est de lire certains articles ces dernières années dans des revues prestigieuses, Science, Nature, etc., de chercheurs, des scientifiques qui ont étudié des restes de dinosaures qui ne sont pas fossilisés et qui sont encore en très bon état, qui permettent même d'induire une réaction auto-immune quand on les injecte à des rats. Et alors, ça m'interpelle parce que dans les articles, on se pose la question en conclusion en se disant « mais on trouve ces restes qui sont tellement bien conservés, ça semble être très récent ». Mais il faut qu'on découvre maintenant le mécanisme biochimique, biologique, etc., qui a permis de faire que ça se conserve pendant des millions et des millions d'années comme cela intact. Au lieu de se dire, mais finalement, et si les dinosaures n'étaient pas si vieux que ça? Et s'il y en a qui étaient encore en vie sur la Terre, il n'y a pas 65 millions d'années, il y a peut-être quelques milliers d'années ou quelques centaines d'années. Il n'y a aucune remise en question, et ça, je trouve que c'est dommage. Et sur pas mal de domaines, on est exactement dans le même raisonnement.
Alors, les dinosaures présents sur Terre une centaine d'années, une possibilité, hein, ce qu'on comprend donc d'André Hegen, assez surprenant en tout cas, effectivement. Les musées créationnistes, d'ailleurs, représentent dans certaines fresques des figurations où on voit les hommes côtoyer les dinosaures.
Oui, dans le musée de création dans le Kentucky, donc il y a un musée d'ailleurs qui a été financé par l'Institut pour la recherche de la création dont je parlais tout à l'heure. Il y a une représentation en effet de l'Éden avec Adam et Ève qui côtoient des dinosaures parce qu'il se trouve qu'avant le péché originel, les dinosaures donc étaient herbivores, donc ils cohabitaient en bonne entente avec le couple qui était présent. Voilà la façon dont ils présentent les choses.
Alors Achille nous écrit ceci, il se demande si nous menons une bataille idéologique anti-religieuse. Et alors j'en profite justement parce que j'aimerais répondre à plusieurs courriels que j'ai reçus avant l'émission hein, qui s'étonnaient justement d'abord qu'on puisse laisser la parole à des créationnistes dans une émission scientifique. Et je voudrais simplement préciser, d'abord qu'il me semble important pour argumenter, se forger une opinion, d'entendre ce dont on parle sans se cacher forcément derrière son petit doigt. Et j'aimerais également rappeler que si c'était vraiment nécessaire, d'abord le fait de proposer un reportage sur les créationnistes, ça n'est pas une caution hein, des idées qu'ils exposent. On est en démocratie, donc heureusement on peut entendre des opinions qui ne sont pas les nôtres. Et puis d'autre part, nous sommes sur une radio de service public qui s'adresse à tous les auditeurs, quelles que soient leurs options politiques ou religieuses. Donc il s'agit simplement de faire la part des choses, en laissant la science et la foi chacune à leur place et sans ambiguïté. Et il ne s'agit évidemment pas d'une critique de croyance religieuse. On vous retrouve dans un instant, Olivier Brosseau. Il y a beaucoup de messages qui arrivent sur le site et je vous les soumets juste après Charlie Winston. If you say this is pop, singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me it's a mystery, but whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end all the girls kick the bucket in the end in the end, yep, we all kicked the bucket in the end, the end, the end, the end, the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people, all feeling afraid of the same thing.
Comment est-ce qu'avec une attitude scientifique que vous avez comme chercheur, on peut défendre la théorie créationniste qui est généralement plutôt perçu comme une affaire de foi?
Pour les deux, il faut de la foi. Qu'on soit créationniste ou évolutionniste, forcément, il y a quelque part un acte de foi. On croit à l'évolution. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Hein. Vous êtes évolutionniste, vous croyez à la théorie de l'évolution? C'est bien ça qu'on nous rapporte. Maintenant, la question se pose, pour lequel des deux modèles faut-il le plus de foi? Est-ce qu'il faut le plus de foi pour croire que, vu la complexité, les merveilles du monde du vivant, il y a un architecte là derrière qui a vraiment apporté ce design? Ou est-ce qu'il faut plus de foi pour croire que tout est venu par hasard et que toutes ces merveilles, cette perfection de la nature s'est auto-construit simplement par hasard et nécessité? Moi, j'ai beaucoup de mal à croire que tout s'est fait par hasard. Quand je vois les merveilles au niveau du monde génétique, de l'ADN, du code génétique, les merveilles aussi à l'équilibre au niveau de notre univers, de l'infiniment grand, c'est impossible que ça se soit fait tout seul. Les évolutionnistes vont nous dire, bien, nous on part d'un point de vue purement matérialiste, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, et on construit là-dessus. Et puis, moi en tant que croyant, je vais dire, mais moi je crois que Dieu existe, et je vais construire là-dessus. et je vais ensuite établir mon modèle sur cette base-là.
Olivier Brosseau est notre invité pour parler du créationnisme et à l'instant donc la voix d'André Hegen, scientifique, hein, puisqu'on peut quand même le rappeler, il a travaillé sur le génome de la vache, il a publié d'ailleurs ses découvertes dans la revue Science, et puis donc en dehors de son activité scientifique, il s'occupe de manifestations créationnistes. Alors là on entendait justement des arguments qui sont souvent repris par les créationnistes, Olivier Brosseau, c'est de dire que le créationnisme comme la théorie de l'évolution, eh bien c'est une question de croyance.
Oui, alors il y a une, enfin, d'abord, il semble une méconnaissance de ce qu'est la démarche scientifique. Il parle à un moment d'ailleurs de matérialisme. On ne sait pas trop de ce qu'il entend par ce mot-là, parce que matérialisme, c'est un mot qui est, on peut considérer que c'est le matérialisme vulgaire, c'est un matérialisme philosophique, un matérialisme marxiste. Non, le matérialisme dont il est question ici en science, c'est un matérialisme de méthode, un matérialisme méthodologique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on travaille que sur la matière ou les manifestations de celle-ci. On pourrait citer par exemple Laplace lorsqu'il a présenté à Napoléon son système de compréhension de la formation du système solaire. Napoléon a réagi en disant « Vos travaux sont très intéressants, mais je n'ai pas vu trace de Dieu dans vos écrits. Mm-hmm. » Et Laplace lui a répondu « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse, sire. » Et c'est à la fois anecdotique et révélateur justement des changements qui se sont opérés dès la fin du XVIIIe siècle sur la façon d'appréhender les sciences et surtout le fait d'aborder la démarche scientifique en mettant à l'écart toutes les croyances religieuses, idéologies, considérations politiques qui auraient eu une interférence sur l'obtention des connaissances objectives que la science permet par sa démarche collective. C'est toujours cet aspect collectif qui est important. Ouais.
André Hegen parlait justement de la complexité du monde vivant. Il disait c'est tellement complexe, tellement incroyable que forcément ça vient d'un créateur. Là aussi c'est un argument qui est souvent avancé par les créationnistes.
Oui, et qui est avancé par ceux justement qui correspondent à la troisième croisade dont on n'a pas encore parlé, qui est au début des années 90, c'est-à-dire juste après la deuxième croisade créationniste, en 1987 pour être précis, la Cour suprême des États-Unis tranche en faveur, justement, en la défaveur des créationnistes scientifiques, en disant il s'agit bien de religion et ça n'a pas rien à faire en cours de science. Et dans la lancée, on commence à voir apparaître des livres qui mettent en avant une nouvelle, soi-disant, théorie sur les origines qui va être appelée le dessin intelligent. Cette idée selon laquelle le monde est tellement complexe, tellement bien fait, qu'on ne peut qu'en inférer l'existence d'un grand horloger, d'un designer. Et volontairement, on évite de le nommer Dieu, pour contourner justement les défaites juridiques passées. Mmh. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui beaucoup dans un certain nombre de structures, même en France, justement, ces positions qui tendent vers cette idée du dessin intelligent, donc de à tout prix vouloir donner une finalité à l'évolution, considérer que l'évolution est dirigée et que, en fait, bien sûr, le sommet de l'évolution, c'est l'homme.
Vous dites-vous que ce qui se cache finalement derrière cette façade pseudo-scientifique, ce sont des objectifs véritablement politiques?
Déjà politique parce que, quels que soient les mouvements créationnistes qu'on prend en considération, ils ont pour cible l'enseignement. Et là-dessus, ça peut rejoindre éventuellement des interrogations des auditeurs. Il ne s'agit pas de remettre en cause les croyances personnelles ou le fait qu'une personne puisse adhérer à telle ou telle idée. Il s'agit justement de pointer du doigt des individus ou des personnes qui, dans un cadre public, tentent à tout prix de modifier et d'imposer une vision spiritualisée, et en particulier dans l'enseignement des sciences. Et ce qui, on en parlera certainement après, se retrouve de plus en plus dans les salles de classe au travers de réactions des élèves qui, justement, réagissent lors des enseignements concernant la théorie darwinienne de l'évolution.
Alors justement, j'ai un témoignage d'une auditrice qui nous parle de ses enfants qui sont en collège en ZEP. Chaque année, dit Nathalie à Orléans, au moment où les programmes abordent l'évolution des espèces ou la laïcité, je les questionne, mes enfants, sur les remarques ou questions de leurs camarades. Et l'an dernier, notre Benjamin est rentré effondré. L'un de ses meilleurs amis, à côté de lui, n'a cessé, pendant toute l'heure consacrée à ce sujet, de maugréer entre ses dents que tout cela n'était que mensonge. Ce jeune garçon qui avait alors 13 ans est catholique et nous qui connaissons bien la famille savons qu'ils ne sont pas des intégristes religieux.
Oui, ben, tout à fait. C'est pas étonnant parce que même la position, si on prend juste les autorités les autorités catholiques au travers du Vatican sont des positions qui sont à rapprocher du dessin intelligent ou, je dirais juste le nom, on n'aura probablement pas l'occasion d'en parler, ou des positions qui sont celles d'un télardisme, des thèses proposées par Teilhard de Chardin qui ont été longtemps combattues par l'Église et qui aujourd'hui sont largement reprises en considération. En effet, c'est ces positions finalistes qui voudraient que l'évolution s'orientait vers un but précis. Et toujours ce but précis étant l'homme qui est l'aboutissement de l'œuvre du créateur.
Alors qu'on parle de bazar évidemment dans la théorie de l'évolution.
Oui, c'est pour ça que ce qu'on n'a pas encore dit, et je pense que là c'est l'occasion, c'est on a commencé à avoir une petite idée de la diversité des créationnismes, allant des créationnistes littéralistes à ceux qui acceptent l'évolution, mais qui tentent à tout prix d'introduire une finalité et donc une transcendance dans l'explication du monde naturel et ses origines. Donc les créationnismes, ou le créationnisme, c'est toutes les doctrines qui, à un moment quelconque de leur argumentation, font intervenir une transcendance dans l'explication du monde naturel ou de son origine et qui tentent de l'imposer dans l'enseignement des sciences, qui est quand même quelque chose de central. Et là, ça touche à la question aussi de la laïcité. Et ce n'est absolument pas une attaque vis-à-vis des croyances individuelles et vis-à-vis des religions. Il ne faut absolument pas confondre justement le type de débat qu'on peut avoir.
Alors justement, on y reviendra dans un instant pour savoir si effectivement, et pour répondre au titre de votre livre, s'il y a une menace en France liée au créationnisme et en particulier sur la laïcité. Mais quand même, je voudrais vous lire deux messages. Celui de Marc qui nous dit ceci à l'écoute de votre émission. J'ai peur que certains de vos auditeurs se disent que les croyants ont tous un raisonnement irrationnel. Je voudrais relativiser. Les créationnistes ne sont qu'un courant très minoritaire chez les croyants. La plupart des gens savent qu'il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre, mais bien comme un ensemble d'histoires dont il faut seulement retenir la morale. Et Erizo à Nérac nous dit ceci, étant protestant, je sais articuler les découvertes de la science et la foi, à condition que la science ne tombe pas dans le revers qui a piégé l'Église dans son histoire, prétendre être la seule à pouvoir dire la vérité. Je crois au Dieu créateur et je reçois pleinement les indications scientifiques sur les origines du monde, car pour moi, le texte biblique n'est pas un texte scientifique. Le récit de la création, en l'occurrence, est un très beau poème et riche d'enseignements. Donc voilà des exemples de messages où on fait bien la part des choses, précisément entre la science d'un côté et la foi, la croyance de l'autre.
Tout à fait. Toutes ces deux interventions très pertinentes. Et en effet, même quand on parle des mouvements évangéliques aux États-Unis, par exemple, j'ai bien parlé de mouvements évangéliques, je n'ai pas parlé de la totalité. Il ne s'agit pas de généraliser, parce que dans tous les procès qui ont lieu aux États-Unis, il y a aussi des religieux, qu'ils soient protestants ou catholiques, qui sont intervenus dans les procès, du côté justement des scientifiques qui voulaient dénoncer cette tentative de faire rentrer de la religion dans l'enseignement des sciences. Parce que c'est vraiment ça l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu qu'il y a à l'heure actuelle en France avec un certain nombre de structures qui sont actives.
Francis demande si le créationnisme est uniquement associé au catholicisme.
Non, pas du tout. Il est associé en particulier aux trois grands monothéismes. On pourrait parler, même si c'est alors là encore une frange assez particulière de l'islam. On peut citer le cas d'Harun Yahya, qui est ce prédicateur turc qui est à l'origine de l'envoi d'un volume.
L'Atlas de la création.
Voilà, l'Atlas de la création, un volumineux ouvrage, puisqu'il fait à peu près 7 kilos, et c'est le premier tome qui a été envoyé et le premier d'une série de 7 tomes.
Ah oui, donc il faut avoir une bonne bibliothèque. Ouais.
Avoir une bonne bibliothèque. Le premier a été envoyé en 2007, et il y en a un second tome qui a été envoyé, mais il y a eu beaucoup moins de diffusion médiatique qui a été lui aussi diffusé.
Et parce qu'il avait été envoyé dans les écoles.
Il a été envoyé dans les écoles, donc dans les centres de documentation, pardon, auprès de professeurs, dans des universités, auprès de chercheurs travaillant justement sur l'évolution.
On parle de chez nous, on ne parle pas des
États-Unis. Et on parle de la France, là. On parle de la France et de l'Europe. Il y a la Belgique qui a été touchée, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne. Donc, alors là, on parle juste d'un livre. Il faut bien noter que l'Éducation nationale a immédiatement été sensibilisé par des enseignants qui ont reçu l'ouvrage et a diffusé une circulaire pour ne pas mettre à disposition cet ouvrage des élèves sans qu'il y ait justement de présentation critique des thèses qui sont annoncées.
D'ailleurs, c'est la même année que la Commission de la culture, de la science et de l'éducation du Conseil de l'Europe a publié un rapport sur les dangers du créationnisme dans l'éducation. C'est arrivé en 2007, au même moment.
Oui, c'est arrivé en lien justement avec cette offensive créationniste en Europe. Bon, là, une offensive qui provenait pour le coup de Turquie au travers d'une frange islamique qui est assez particulière et qui n'est pas du tout... mais bon, qui est importante parce qu'ils ont des moyens absolument considérables. Et il est en effet très intéressant de noter que le Conseil de l'Europe s'est penché sur la question et a publié un rapport qui est extrêmement intéressant, donc sur les dangers du créationnisme dans l'éducation. pour tous ceux qui pourraient penser encore que c'est un problème, même si on a parlé des États-Unis parce que c'est un modèle extrêmement intéressant, cela reste l'idée du modèle. Et le problème, c'est ce qui se passe en Europe et en France également depuis le début des années 2000.
Ouais. On y revient avec vous, hein, ouais. Olivier Brosseau, dans un instant. Les messages arrivent nombreux sur le site de La Tête au Carré, franceinter.com, pour nous rejoindre après Michel Polnareff et Holidays.
D'où vient que les particules ont une masse?
À droite comme à gauche d'ailleurs.
La tête.
Je laisse un blanc pour que les auditeurs réfléchissent. Mais vous imaginez ce que ça veut dire?
Non, enfin en tant que scientifique, vous savez...
C'était quoi la question?
Alors la question, pardon.
La tête. D'où vient que les particules ont une masse?
C'est un peu comme lorsque la Terre tourne autour du Soleil, on va pas revenir dessus.
Vas-y, prouve. Il faut tout prouver.
Sur France Inter.
Est-ce que vous comprenez que ça puisse surprendre que quelqu'un qui travaille en science puisse être créationniste?
Ah mais j'entends bien ça, puisque ce qu'on nous répète, c'est qu'en matière de science, on devrait ou on souhaiterait que le point de départ soit le matérialisme pur et dur.
Non, mais parce que je me dis, quand je vous entends parler, que vous devez subir un certain nombre de pressions quand même de la communauté scientifique.
Je suis atypique, disons, c'est vrai. Je suis atypique, je ne m'en cache pas, mais ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que... J'ai toujours eu d'excellentes relations avec des collègues au niveau international, même s'ils connaissaient mes positions créationnistes. Et je trouvais beaucoup plus de respect par certains collègues au niveau international que certains collègues même au sein de mon institut.
Et le créationnisme en France, alors, aujourd'hui?
Le créationnisme en France, il n'a pas trop la cote. Mais bon, on n'est quand même pas ringard ni moyenâgeux. Si nos théories étaient aussi débiles... Nos opposants ne mettraient pas tant d'énergie à nous contrer et à chercher à nous faire taire, parce que finalement, ils pourraient se dire, mais si c'est tellement débile, les gens vont voir que c'est débile. Dans ce cas-là, ça disparaîtra tout seul. Mais non, on dit, et y compris le Conseil de l'Europe, dit que l'on est dangereux, y compris pour les droits de l'homme. Alors bon, moi, je vois pas en quoi, moi, je suis dangereux pour les droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. J'essaye d'être un bon citoyen, j'essaye d'être tolérant, y compris envers les plus virulents des évolutionnistes. Je ne trouve pas forcément la même chose en face.
Voilà, André Hegen, donc généticien et créationniste. Olivier Brosseau, vous êtes amené à dialoguer d'ailleurs avec les créationnistes. Je sais que vous allez rencontrer André Hegen très prochainement sur un plateau de télévision avec Axel Kahn, Pascal Pic qui sera également à vos côtés. Il y a une discussion possible?
On en a rencontré un certain nombre au cours de notre enquête, hein, qu'on a réalisée donc avec Cyril Baudouin, sous la forme d'interview ou de rencontres plus informelles. Ça reste en général, il faut être honnête, très difficile de discuter, puisque au contraire de ce que tente de nous dire M. Hegen, en faisant passer la science pour quelque chose, des affirmations dogmatiques, on est bien face à une position qui est dogmatique, et de l'autre côté, c'est-à-dire le côté des scientifiques, une construction des savoirs qui est en effet en perpétuellement remise en cause, non pas parce que les chercheurs ne savent pas, mais c'est parce que justement ils sont en train de construire le champ des connaissances, quoi. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est tout, d'ailleurs, tout ce qui fait... Enfin, moi, je veux dire, si je m'émerveille, c'est par rapport justement à ce que la science nous apporte. On a entendu cette histoire justement d'araignée qui est herbivore.
Herbivore, oui.
Enfin, c'est des choses qui sont passionnantes. Aller trouver l'émerveillement ailleurs, libre à chacun de le faire. Simplement, ce n'est pas de la science. Et c'est important de le souligner, de le rappeler, d'insister. Il ne s'agit pas de science.
Alors, Marie-Caroline, dans un courriel, nous dit « Je ne conçois pas que des arguments scientifiques relativement simples ne puissent très facilement détruire les arguments des créationnistes. Ça devrait être un jeu d'enfant pour de vrais scientifiques de démonter justement ces théories. » Et c'est vrai, elle a raison. On se demande pourquoi il faut déployer autant d'efforts pour arriver à faire accepter d'un côté la science et de l'autre côté la croyance. Mais d'abord la science.
Parce que les créationnistes, quelle que soit leur tendance, que ce soit des personnes comme André Hegen ou des partisans du dessin intelligent ou de thèses plus spiritualistes, vont rechercher ce qu'ils essaient de mettre en avant comme étant des petites failles dans la science. Donc des points de discussion, de débat qui sont en effet, la science se fait au travers justement de ces débats entre les scientifiques. Et donc ils sont sans cesse dans la critique, jamais dans la construction, c'est-à-dire qu'ils ne proposent rien. Je veux dire, il n'y a aucune théorie, élément qui a été proposé par des créationnistes qui sont à l'heure actuelle des choses qui sont prises en considération dans les domaines scientifiques.
Alors c'était la question de Cali justement, quelle est la contribution des sciences créationnistes dans nos découvertes scientifiques actuelles? Selon vous, il n'y en a pas?
Selon moi, il n'y en a pas. Je demande si quelqu'un apporte un élément On pourra en discuter, mais de toute façon, je veux dire, ils ne sont pas dans cette logique de construction collective des connaissances, puisqu'ils ont, même si il y a cette idée de se réunir, c'est-à-dire que pendant tout un temps, chaque personne religieuse qui supporte des positions créationnistes avait tendance à combattre de son côté, et depuis un petit moment, ils ont compris qu'ils avaient le même intérêt, et qu'ils avaient tout intérêt à justement travailler ensemble. Ça se traduit comment? Je parlais de Harun Yahya. Harun Yahya et donc sa structure en Turquie a des liens très, très, très étroits avec l'Institut pour la recherche sur la création aux États-Unis. Des liens qui, d'ailleurs, se sont créés dans les années 80 quand les partisans de la science de la création sont allés sur le mont Ararat pour trouver des preuves de l'existence et de l'échouage de l'arche de Noé sur le mont Ararat. Donc, retrouver des morceaux de bois, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des connexions qui sont faites. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette idée de, on réunit toutes les religions pour surtout combattre ce qui est considéré comme un mal pour la société, la théorie darwinienne de l'évolution.
Sandrine est en Vendée, elle demande pourquoi est-ce qu'on fait un mauvais procès créationniste à la paléontologue Anne Dambricourt-Malassé, dont les travaux sont un nouvel éclairage, dit-elle, sur la théorie de l'évolution. Alors c'est vrai qu'elle est chargée de recherche au CNRS, paléoanthropologue. Ses travaux d'ailleurs ont fait l'objet d'un documentaire sur Arte, qui a été diffusé en 2005 et qui a suscité d'ailleurs à ce moment-là une vive polémique.
Oui, il a suscité, c'est le documentaire, c'était Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme, qui a été présenté en prime time un samedi soir sur Arte. Pour information, il y a eu 1,3 million de téléspectateurs, dont je ne doute pas qu'il y a un certain nombre d'auditeurs là, de France Inter qui l'ont vu, qui n'ont certainement pas perçu ce qu'il y avait derrière ce documentaire. Le problème, si on va le résumer simplement, c'est que c'était un documentaire qui présentait les thèses de cette paléoanthropologue en les présentant comme étant la nouvelle théorie des origines de l'homme. Or, les travaux qu'elle a réalisés, certes, ont été en partie publiés dans des revues scientifiques, mais ne sont pas reconnus comme étant la nouvelle théorie des origines par la communauté scientifique. Et lorsqu'on lit véritablement les écrits nombreux sur Internet d'Anne Dambricourt-Malassé, on peut que constater la difficulté qu'elle a à faire la part des choses entre ce qui relève de sa démarche scientifique et ce qui relève de ses propres croyances, et ce problème qu'il y a entre des observations qu'elle fait, qui sont très intéressantes pour ce que j'en ai lu, moi j'ai trouvé ça très intéressant, et des interprétations qu'elle en donne, dont justement l'interprétation, tout le travail du scientifique, qui relève typiquement d'une volonté de coller à un finalisme avec une évolution dirigée toujours vers cette idée d'une l'homme étant le sommet de la création. Donc là, on n'est plus dans la science et c'est tout le problème des travaux d'Anne Dambricourt-Malassé.
Un courriel, un témoignage d'un auditeur. J'aimerais ajouter, dit cet auditeur, qu'il est compliqué de s'opposer à l'interprétation darwinienne de l'évolution sans que l'on se fasse tacler de créationnistes. Les uns et les autres, dit-il, ne sont pas très ouverts. Et c'est vrai qu'on peut aussi le ressentir du côté des évolutionnistes. Parfois, un certain manque d'ouverture à la discussion.
Alors, c'est à la fois, enfin, je trouve ça assez drôle d'entendre ça, parce que, pour citer un livre là, auquel j'ai contribué, bon, sur une partie qui concerne le créationnisme, Les mondes darwiniens, qui vient de paraître aux éditions Cileb, c'est justement un livre qui montre en quoi c'est un champ de recherche qui est en pleine émulsion, et c'est le cas depuis son origine, depuis la publication de L'origine des espèces. On est dans une théorie extrêmement dynamique, parce qu'elle s'enrichit de tous les travaux des chercheurs dans le monde entier, et donc avec les débats, les polémiques qui ont lieu dans toute la communauté scientifique sur des points qui peuvent être considérés comme des points de détail pour les gens ou des choses beaucoup plus centrales qui sont au cœur de la théorie. Donc de dire ça, je ne sais pas à quelle conversation l'auditeur se réfère, mais je veux dire non, bien sûr, on peut tout à fait discuter des fondements de la théorie darwinienne de l'évolution et de ses développements, surtout depuis 150 ans. Je pense quelque chose d'inapproprié. Quoi.
Olivier Brosseau, très vite pour terminer, puisque nous sommes dans un pays laïque, est-ce que vous sentez véritablement cette menace dans notre pays, la France ?
Oui, alors très vite, on n'a pas pu en parler, mais c'est vrai qu'il faut souligner qu'il y a de plus en plus de remises en cause de la théorie darwinienne de l'évolution dans les salles de classe, et ce, en particulier parce que les créationnistes, quelle que soit leur mouvance, s'appuient sur un certain nombre de supports, en particulier Internet, et diffusent beaucoup de choses sur Internet avec des sites qui sont extrêmement bien faits et des moyens qui sont beaucoup plus considérables que les moyens dont disposent justement les universités. Et pour terminer, on peut quand même s'inquiéter des prises de position puis au niveau de l'État qui visent à remettre en cause la laïcité, puisque la laïcité est un des garde-fous justement qui empêche le développement, comme on peut l'observer aux États-Unis, des mouvements créationnistes. Et donc c'est pour ça que les propos du chef de l'État en particulier, que ce soit au Latran ou à Riyad ou et dans son livre La religion, la République et l'espérance sont extrêmement inquiétants. Voilà.
Merci beaucoup Olivier Brosseau, ce livre Les créationnismes, une menace pour la société française. Et puis très vite mardi prochain, vous serez, c'est mardi ou samedi, excusez-moi, vous serez à Ivry-sur-Seine.
C'est samedi, ouais.
C'est samedi prochain à 19h hein, sur le darwinisme.
C'est à 16h.
C'est à 16h. Bah, décidément, j'ai pas ni le bonjour ni les bonnes heures. Tout est sur le site internet de La Tête au Carré, ce sera beaucoup plus clair pour se renseigner tranquillement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Dans un instant, Daniel Mermet, il est 15h.